Bonjour, bonjour. Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Nouvelle émission qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale et plus ou moins pertinente les petites images qui bougent depuis quelque part vers la fin du 19e siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer 30 minutes à l'un des acteurs les plus glamour du cinéma américain, Paul Newman. Newman, vraiment, ça c'est un très beau nom. Paul Newman, né le 26 janvier 1925 dans l'Ohio, à Shaker Heights plus précisément, est mort, hélas, le 26 septembre 2008, quelque part dans le Connecticut, mais qui, hélas, aura bien occupé, par contre, sa vie et sa carrière. Une vie commencée donc de manière bien tranquille dans l'Ohio. Ses parents et ses grands-parents sont des immigrés de Hongrie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, bref, toute la diaspora d'Europe de l'Est venue se réfugier aux États-Unis après divers épisodes plus ou moins douloureux, puisque Paul Newman, pardonnez-moi, est né dans une famille juive. Ensuite, eh bien, il arrive à la Seconde Guerre mondiale pour y aller, et même s'il ne peut pas devenir pilote comme il le souhaitait, car on découvre, le saviez-vous, que Paul Newman était daltonien, ce qui pour un acteur est assez étonnant. Eh bien, il devient radio-mitrailleur, ne me demandez pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est sur un avion, et ma foi, eh bien, il fait une guerre relativement difficile, puisqu'il est touché pendant une bataille, et cet incident va lui interdire de pratiquer le sport, alors que c'était sans doute ce vers quoi il se destinait, mais le destin, lui, en avait décidé autrement. Et du coup, eh bien, Paul Newman se tourne vers le théâtre, d'abord à Yale et ensuite à la fameuse école de l'Actor Studio dirigée par Lee Strasberg à New York. Très rapidement, il monte sur les planches à Broadway en 1953 dans une pièce intitulée Picnic, qui donnera plus tard un film avec Marilyn Monroe, qui lui apporte la célébrité et lui permet évidemment de rejoindre les plateaux du cinéma. Il commence sa carrière cinématographique en 1954 avec un film de Victor Saville dont j'ignore tout, Le Calice d'argent. Et pour ne pas être plus long avant de passer à la musique, eh bien, son premier grand rôle, il l'aura 3 ans plus tard dans un film d'Arthur Penn, tourné en 1957. En anglais, ça s'appelle The Left-Handed Gun. En français, pour une fois plus court, ça s'appelle tout simplement Le Gaucher. C'est un western, et avant d'en dire quelques mots, eh bien, je vous propose d'en écouter quelques notes dans 24 notes secondes. This is the story, this is the song of a left-handed boy who never meant wrong. He is dangerous and devilish, gentle and wild. Look on him tenderly, speak of him gently. He is death's child. Tone, tone the bell softly. Tone, tone the bell gently. Tone, tone the bell tenderly. For the left-handed boy. His name is sorrow, his name is pain. Where has he come from? What is his name? He belongs to all wandering, astray and alone. He belongs to all lonesomeness, shadowed by lonesomeness. Tone the bell.
Voilà un extrait un peu court, mais une musique bien westernienne, une chanson bien westernienne signée Alexander Courage, l'un des piliers, encore un beau nom, l'un des piliers de la musique de film de western américaine. Il avait notamment signé bien avant-guerre celle de la fameuse chevauchée fantastique de John Ford qui révéla John Wayne. Et on peut dire qu'en 1958, eh bien, Le Gaucher révéla Paul Newman qui endossait, il n'était pas le premier à le faire, mais il le fit brillamment, et il endossait donc la personnalité de William Bonnet, alias Billy the Kid, alias the left-handed god, le gaucher, puisqu'on a longtemps cru qu'il tirait de la main gauche, qui lui donnait un avantage certain par rapport à ses adversaires. Vous savez, comme les gens qui louent la baballe sur les cours de tennis. Et en fait, non, il paraît simplement que sur une photographie, il tient son pistolet de la main droite, mais comme vous le savez, la photographie, c'est à l'envers, donc on a l'impression que c'est la main gauche, d'où le surnom, voilà. Encore une des légendes du western, du mythe de l'ouest américain détruite, j'en suis bien désolé, mais elle survivra, et en tout cas, elle avait déjà été largement personnifiée avant 1958, puisque dès 1930, c'est-à-dire juste au début du cinéma parlant, on avait vu un Billy the Kid sous la direction de King Vidor. Et ensuite, eh bien, je ne vais pas vous lister toutes les possibilités. Tiens, peut-être Kris Kristofferson en 1973 dans un film que j'ai oublié. Ah oui, et puis Robert Taylor, le beau Robert Taylor que vous avez oublié. Un Billy the Kid tout à fait glamour, tout en noir, dans un film de la MGM de 1941. Le tout, donc, ce gaucher sous la direction d'Arthur Penn, dont c'est en fait le premier film, Arthur Penn, qui venait de la télévision, comme beaucoup de personnes et des réalisateurs dans ces années 60, et qui ensuite signa, excusez du peu, d'abord le sublime Miracle en Alabama, consacré à la vie d'une jeune fille, sourde, muette et aveugle, quand même assez difficile pour communiquer, mais qui parvenait grâce à l'entremise d'une éducatrice. Et puis surtout, bien sûr, Arthur Penn, c'est le réalisateur de Bonnie and Clyde avec Fading Away et Warren Beatty, un des films hype des années 70. Et puis accessoirement, même si ça n'a rien à voir avec le film, une chanson de notre bien-aimé Serge G. En tout cas, nous étions là plutôt pour évoquer la carrière de Paul Newman, et bien dans les années qui suivirent, elle connut une ascension assez importante, puisque l'homme tourna dans quelques films très bienvenus. Paul Newman n'est pas le genre à alterner des films d'auteur et des films un peu plus commerciaux pour soigner son image. Il visait plutôt le haut de gamme, et ce fut le cas notamment en 1958, où on le vit à la fois dans Les Feux de l'été de Martin Ritt et dans La chatte sur un toit brûlant. La chatte, c'était Elizabeth Taylor. Je ne sais pas qui jouait le rôle du toit, sous la direction de Richard Brooks, une adaptation de Tennessee Williams. Et puis en 1960, eh bien, il gagna, s'il en était besoin, ses galons d'acteur bankable, puisqu'il fut la vedette d'une super production signée Otto Preminger, Otto Preminger si vous préférez, qui en tournait beaucoup ces années-là, après lui aussi être venu de l'Europe de l'Est bien des années avant. Ça s'appelait Exodus, et cela racontait, au cours de l'été 1947, eh bien l'Odyssée, même si le mot est un peu mal choisi, d'un paquebot appelé Exodus qui tente de rentrer en Israël et qui y parviendra, mais après bien des péripéties. Il me semble d'ailleurs que cet Exodus, il est passé quelque part par 7 dans le courant de son Odyssée. Dans les rôles principaux, eh bien, il y avait évidemment Paul Newman, à ses côtés Eva Marissin, une actrice qui n'a pas peut-être eu la carrière qu'elle souhaitait, mais qu'on n'a pas oublié, aux côtés de Cary Grant dans La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Il y avait Peter Lawford, Lee Jacob et quelques autres. Et puis, il y avait évidemment une partition signée de Ernest Gold dans 24 notes secondes. La magistrale et majestueuse partition d'Ernest Gold, Ernest Gold, c'est mieux, pour l'Exodus d'Otto Preminger, qui permit d'ailleurs au compositeur d'obtenir cette année-là l'Oscar de la meilleure musique de film. Exodus, un film de 212 minutes, ne croyez-vous, 3h40 d'une épopée consacrée donc à des événements réels survenus entre mai et décembre 1947, adapté d'un best-seller de Léon Uris par un Otto Preminger enthousiaste et qui permit, il faut le reconnaître, de sortir le... C'est un genre, d'une certaine manière, le genre de la superproduction du côté péplum ou du côté fantastique, encore qu'à l'époque, c'était peu le cas pour une aventure réellement humaniste dans laquelle Paul Newman et ses yeux bleus faisaient absolument merveille. Paul Newman, notre héros de ce jour, qui continua donc à rester dans ses sommets à la fois de films successful, comme on dit en anglais, ce qui veut dire qu'il gagne beaucoup d'argent, et puis des films qui reste en fait dans l'histoire du cinéma. En 1961, on le verra notamment dans le rôle principal de L'Arnaqueur de Robert Rossen, un film dont bien des années plus tard, plus de 25 ans plus tard, eh bien Martin Scorsese tournera une suite qui s'appelle La couleur de l'argent, dans laquelle on retrouve Paul Newman dans le même rôle, 25 ans plus tard, et le jeune, à l'époque, Tom Cruise à ses côtés. Et c'est le seul film pour lequel Paul Newman obtint l'Oscar. En 1986, vous vous rendez compte, après une carrière brillantissime, des dizaines de nominations, mais Paul Newman n'obtint l'Oscar du meilleur acteur qu'une seule fois, pour un film, donc, tourné par Martin Scorsese en 1986, donc, et sans être désagréable, plutôt au crépuscule de sa carrière qu'à son commencement. Mais en tout cas, dans les années 60, eh bien, sa carrière, elle bat son plein, puisqu'on le voit dans 12 oiseaux de jeunesse, comme c'est beau comme titre, Sweet Bird of Youth, de Richard Brooks, toujours, en 1962. On le voit aussi dans une sorte de western, un peu néo-western, en fait, je ne sais comment le qualifier. En anglais, ça s'appelle Hud, et en français, joli titre, Le plus sauvage d'entre tous. Martin Ritt était à la baquette. Et puis, parce que là, je pense que ce sont des réalisateurs, hélas, qui ne vous diront pas grand-chose. Par contre, et je l'ai déjà évoqué, le nom d'Alfred Hitchcock ne vous sera pas inconnu. Eh bien, ces deux-là se retrouvent en 1966, sur le tournage du rideau déchiré. Je vais y arriver. Du rideau déchiré. Ouais, du rideau déchiré, c'est mieux. Un film donc tourné avec Paul Newman et Julie Andrews. Notre chère Julie Andrews. Julie, on t'aime. Pour un film dont la musique était signée de John Addison, même si au départ, elle le fut par Bernard Herrmann. Qu'est-ce que tu veux dire par là, cher chroniqueur? J'y reviens après. On écoute d'abord un extrait dans 24 notes secondes. un extrait de la bande originale du Rideau déchiré, The Torn Curtain, ou Torn Curtain d'ailleurs en anglais, un film d'Alfred Hitchcock tourné en 1966, le 50e film d'Alfred Hitchcock. Le croiriez-vous, ensuite il en tournera assez peu, mais en 1966 il en avait déjà tourné 50. Un film donc avec dans les rôles principaux Paul Newman et Julie Andrews, une histoire typique de la guerre froide avec la défection d'un savant en Union soviétique, en tout cas une pseudo-défection, un film qui est marqué par un morceau de bravoure que ceux qui l'ont vu n'ont pas oublié, un meurtre particulièrement long en tout cas, puisque donc l'assassin essaie de tuer sa victime, d'abord avec un chaudron, ensuite avec un couteau à découper, ensuite avec une pelle, et il finit par le finir avec le four d'une cuisinière à gaz. Le tout dure très longtemps et le tout est sans musique, ce qui d'ailleurs provoqua la brouille en fait entre Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock, qui collaboraient depuis 1956, donc depuis une dizaine d'années, ce qui nous avait valu quelques chefs-d'œuvre musicaux et cinématographiques comme Psychose ou La mort aux trousses déjà citée. Mais en 1966, Bernard Herrmann composa la partition. Puis celle-ci fut rejetée et on la remplaça donc par celle de John Addison, dont vous avez sans doute pu vous rendre compte qu'elle ressemblait quand même beaucoup à du Bernard Herrmann. Et évidemment, comme ces deux-là, Hitchcock et Herrmann, étaient des fortes têtes, ils ne collaborèrent plus jamais ensemble jusqu'à la mort de Bernard Herrmann en 1975, ce qui est quand même bien dommage. Je fais ce jour beaucoup de digressions alors que notre héros, c'est Paul Newman, déjà cité, donc qui était l'interprète principal du Rideau déchiré. On le vit ensuite en 1967 dans un film de prison qui est une sorte d'archétype des films de prison. Ça s'appelle Luc, la main froide, Cool Hand Luke. En voilà encore un beau titre de Stuart Rosenberg. Et puis, en 1968 aussi, c'est le premier film signé par Paul Newman. Ça s'appelait Rachel. C'était une fantaisie tout à fait bienvenue avec dans le rôle principal, sauf erreur de ma part, John Woodward, qui était la seconde épouse de Paul Newman, vous l'aviez deviné, et ces deux-là restèrent mariés très très longtemps, ce qui est quand même chose assez rare à Hollywood, on le sait bien, et ils eurent trois filles, Elina, Teresa, Melissa Stewart et Stella Olivia. En voilà des jolis prénoms que j'espère toujours parmi nous, contrairement à leur bien-aimé papa. On va écouter un nouvel extrait d'une bande originale d'un film sorti en 1960. Alors, que vous dire, 1969, année érotique, bien sûr, là encore grâce à Serge G. Personne ne l'aura oublié, des années de plaisir, des années de liberté, des années qui suscitent beaucoup de nostalgie. Et quoi de mieux que de les illustrer en écoutant la musique signée par Burt Bacharach. Burt, on t'aime. Pour le Butch Cassidy et le Kid, alors toujours le même Kid, un autre Kid, pardonnez-moi, que celui évoqué tout à l'heure avec le gaucher d'Arthur Penn, mais avec un western qui n'était pas du tout dans la veine d'Arthur Penn, quelque chose de léger, quelque chose de bienvenu, signé par Joy Roy Hill, avec dans les rôles principaux Paul Newman donc et Robert Redford. Petit silence quand même. Paul Newman et Robert Redford, deux des plus beaux hommes du monde dans le même film. On les retrouvera bien évidemment, succès de Butch Cassidy et le Kid, et dans 4 ans plus tard, dans L'Arnaque, encore un film de George Roy Hill, tout à fait bienvenu. Et à leur côté, il y avait Catherine Ross, et à un moment, alors je ne sais plus lequel des deux, je l'avoue, il me semble que c'est Robert Redford, il prenait Catherine Ross sur le guidon de son vélo, et il y avait une chanson qui commençait à passer, et la chanson c'était ça.
Keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long
dress up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
J'adore la petite musique à la fin, j'adore la voix de Bee Gees Thomas. En fait, j'adore tout de cette bande originale, du grand, de l'immense Burt Bacharach pour un film de George Roy Hill tourné en 1969. Butch Cassidy et le Kid, Paul Newman et Butch Cassidy, et Robert Redford et le Kid. Et le film, eh bien, il est vraiment parfait, très drôle. 1969, c'est l'année où le western subit un tournant radical, puisque c'est aussi l'année de la Horde sauvage de Sam Peckinpah avec William Holden dans le rôle principal, mais alors là, dans un genre complètement différent de Butch Cassidy et le Kid. Mais ma foi, ce sont deux façons, l'une et l'autre élégante, de renouveler un des genres emblématiques du cinéma américain. Et grâce à la musique, et puis grâce aussi à l'esprit très années 70 du film, eh bien, Butch Cassidy et le Kid fut un triomphe large et international, qui donc amena ces deux-là, Rodford et Newman, à se réunir à nouveau en 73 dans L'Arnaque. Alors on va pas écouter un extrait de L'Arnaque, si ça vous rappellera sans doute de quelque chose, une musique signée de, enfin, inspirée de Scott Joplin avec non, moi je vais pas vous le faire quand même. Bref, en tout cas, l'occasion pour Newman d'un nouveau triomphe. L'homme est, dans les années 70-80, eh bien, l'un des plus grands acteurs du cinéma américain, ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des choix parfois, je dirais, relativement pointus. On le retrouvera notamment en 1976 dans un néo-western, alors là, pour le coup, plutôt cynique, signé Robert Altman, Buffalo Bill et les Indiens, où il jouera évidemment le rôle de Buffalo Bill. On le verra ensuite dans des films un peu moins intéressant. Il y a La couleur de l'argent, signé en 1986, et puis quelques autres, même si à partir des années 90, eh bien, les apparitions à l'écran de l'acteur se font de plus en plus rares. Entre-temps, eh bien, il aura quand même signé 4 ou 5 autres films, en tant que réalisateur, je veux dire, desquels on peut extraire facilement Le clan des Irréductibles, un film très peu connu, mais une petite merveille, inspiré d'un roman de Ken Kesel, auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça s'appelait donc Sometimes a Great Notion en anglais. Ça, c'est des titres. 1971. Et puis, toujours, sauf erreur de ma part, avec John Woodward, l'un des films avec le titre l'un des plus longs du monde, puisque ça s'appelle, je cite, De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Bonjour madame, je voudrais deux places pour De l'influence. Bon, allez, voilà, deux places. Voilà, ce genre de choses. Bref, en tout cas, quand il tourne son dernier film en 2002, eh bien, Paul Newman peut dire qu'il a bien rempli sa vie, bien rempli sa carrière. En plus, mais nous n'aurons pas eu l'occasion de l'évoquer tellement je suis bavard, eh bien, l'homme s'est engagé dans diverses actions caritatives. Il a soutenu le camp démocrate. Ma foi, c'est pas plus malvenu que soutenir le camp républicain. Par contre, alors ça, je le retiens à sa décharge, eh bien, Paul Newman fut un fan de sport automobile. C'est pas bien ça. Mais non, Paul, tu as fait ce que tu as voulu de ta vie et elle a été belle, ta vie. Et voilà, on va la conclure en écoutant évidemment un extrait de la bande originale de ce film ultime. Le film, il s'appelle Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes. On y retrouvait Tom Hanks dans les rôles principaux et sauf erreur de ma part, Thomas Newman à la partition dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you and bye bye.